Bonjour et bienvenue dans Question Politique, le magazine de France Inter, la télévision France Info et Le Monde. Second tour de l'élection présidentielle, ce soir à 20h, nous devrions connaître le nom du 10e chef de l'État de la 5e République. Vous le savez bien de ce duel entre un homme et une femme. Nous ne dirons pas un mot, ni nous sur ce plateau, ni vous d'ailleurs tout à l'heure, dans vos questions en direct. Vous savez bien, silence, ça vote. Et cependant, nous sommes à quelques heures d'un moment historique et de cela, nous allons parler avec des questions sur les passations de pouvoir à l'Élysée. Quel symbole, quel message caché, quelle rupture, que révèlent ces passations? Et puis ce dimanche également, des questions sur la démocratie au XXIe siècle, l'engagement, l'efficacité, les défis des mois, des années à venir, la pauvreté d'abord, la santé. Des questions politiques, donc, émission spéciale ce dimanche. Ne quittez pas, on y va.
France Inter, questions politiques, Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je suis accompagnée de Jean Birnbaum du journal Le Monde. Bonjour Jean.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Hervé Brusini de France Télévisions. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Et je salue notre passeur d'histoire au singulier au pluriel, Jean Lebrun de France Inter. Bonjour.
Salut
à vous Jean. Ce dimanche 7 mai, deux invités sur le plateau de questions politiques. Le premier, c'est le journaliste Patrice Duhamel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez suivi de près toutes les campagnes depuis 1974.
Hélas.
Vous publiez une nouvelle édition enrichie, L'Élysée, histoire, secret, mystère, nouvelle édition de ce livre coécrit avec Jacques Santamaria, c'est chez Plon. Et vous signez un documentaire sur les passations de pouvoir que vous appelez des jours...
De sacre.
Jour de sacre. Pour vous, les questions des auditeurs, ce sera vers 12h30. À 13h15, rendez-vous avec notre second invité. C'est un homme engagé, l'ancien président d'Emmaüs, le créateur du RSA, le créateur du service civique. Il a aussi fait partie d'un gouvernement, le gouvernement Fillon, entre 2007 et 2010. Ce sera Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. À lui, toutes vos questions, auditeurs, téléspectateurs, à partir de 13h30. Pour intervenir, je vous rappelle le numéro, le 01 45 24 7000. Je vous rappelle Internet, ça se passe sur franceinter.fr. Et puis sur Twitter, un mot-clé, question Paul, question au pluriel. On démarre, messieurs, avant de vous envoyer sur le terrain politique. J'aimerais vous envoyer sur le terrain non politique. Jean Lebrun, Hervé Brusini, Jean Birnbaum, cette semaine, que s'est-il passé pour vous en dehors de la politique? Je sais que ça n'est pas une question facile. Oui, c'est vous que je pointe. Jean Birnbaum, Le Monde, allez-y.
Très bien. Écoutez, oui, c'est pas complètement une question politique. Moi, je voulais saluer la disparition d'un philosophe très important et en même temps discret qui s'appelait Ruben Augien, qui est une figure à la fois féconde, agile, un peu provocatrice parfois. On n'est pas obligé de partager toutes ses prises de position. Et en même temps, la politique, on essaie de s'en débarrasser, elle revient toujours. Ruben Augien, dans son tout dernier livre, a posé en fait une question qui était très politique. Ce livre s'appelle « Mes mille et une nuits » où il raconte son combat avec la maladie qui a fini par le terrasser. Et il pose la question finalement souveraine, centrale de toute politique, qui est la question du corps. En fait, la liberté politique commence toujours par les corps, elle y revient toujours, les dictatures s'en prennent toujours au corps. Et dans ce livre, Ruben Augien donc pose à sa manière une question très politique. Vous savez qu'il avait publié des livres au titre très rigolo comme « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». C'était aussi un livre politique à sa manière. Et je voulais donc citer juste trois lignes de ce livre-là, « Mes mille et une nuits » qui est paru chez Albin Michel il y a quelques mois.
Allez-y.
Voilà. « Je constate que mon corps fait de la résistance. Voilà, c'est politique et je suis content pour lui. Je pense aussi au titre magnifique du film de Charles Castella, « La vie est dure, nous aussi ».
Très beau. Jean Lebrun, maintenant qu'on a résolu votre problème de micro, est-ce que vous voulez bien nous dire ce qui s'est passé pour vous durant cette semaine, pour vous, comme événement non politique?
Danielle Darrieux a eu 100 ans et c'était le 1er mai. Elle a chanté d'ailleurs le temps du muguet quand elle s'est mise au cabaret. C'était une chanteuse avant d'être une actrice et le cinéma parlant à ses débuts dans les années 30 aimait le cinéma chantant autant que le cinéma parlant. Et elle avait, dans ces années-là, l'aspect d'une drôle de gosse. Elle portait à ravir la toilette, mais en même temps, elle était pétulante, joyeuse, insolente. Je la comparerais volontiers à Jean Gabin, même si l'un et l'autre n'ont pas eu la même guerre. On revient toujours aux politiques, mais passons, mettons entre parenthèses. Ils ont eu tous les deux, alors qu'ils avaient été des étoiles des années 30, les mêmes difficultés à se réadapter à la France nouvelle, et ils y ont gagné en densité, en gravité. Et Daniel Darieux, en plus, a eu la chance de travailler avec de très grands réalisateurs. De Coin, son ancien mari, qui aimait aussi beaucoup Gabin, Max Ophuls, Madame Rose, qui emmène les pensionnaires de la maison Tellier à une première communion de printemps. Les gens de la Nouvelle Vague, et puis dans la Nouvelle Génération, Téchiné, Jacot, Ozon, elle a été une des huit femmes. Un titre de film, En haut des marches, c'est sa vraie place.
De 1930 à 2010, elle a joué durant toute cette période-là, oui, c'est quand même impressionnant. Daniel Darieux, Hervé Brusini, vous...
Moi, j'aimais beaucoup Daniel Darieux, c'est vrai. Comme nous Gabin, d'ailleurs, qui parlait de la môme Darieux. Et voilà, on sentait qu'il y avait quand même une attirance. Alors moi, je voulais juste parler d'une fiction, puisqu'on n'a pas le droit de parler de politique.
Pas aujourd'hui, mais donc, dès ce soir 20h, on en parlera.
D'un truc très réel, qui est le journalisme, de son exigence et tout, et donc d'un film de fiction qui serait, par exemple, un film où il y aurait... une primaire à gauche, à droite, avec des journalistes qui posent des questions. Vous voyez, un truc de fiction complet. Des affaires, tiens, pourquoi pas, de financement, de costumes, avec des journalistes qui posent des questions. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir un débat pugilat, terrible. Il pourrait y avoir une alerte au piratage. Enfin, un scénario de dingue, quoi, complet. Mais heureusement,
j'apprécie
ça n'a pas
existé. J'apprécie l'imagination que vous avez.
C'est fou. Oui. Mais cas où ça aurait existé, je dirais que l'exigence et le devoir journalistique seraient vraiment à mettre au fronton de notre quotidien, parce qu'il serait plus indispensable que jamais dans notre démocratie.
Et ça serait l'événement de la semaine et des mois précédents.
Oui, absolument. Et allez savoir du futur.
Certainement du futur.
France Inter, Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Allez, on revient sur le terrain politique avec notre invité, le journaliste politique Patrice Duhamel. On va remonter dans le temps dans quelques instants, mais Patrice Duhamel, tout d'abord un mot de 2017, donc élection. À partir de ce soir 20h, on pourra parler de résultats de politique. Est-ce que quelqu'un sait comment va se dérouler la semaine à venir? Est-ce qu'on a une idée du calendrier et de qui le décide?
Le calendrier est assez précis. Le mandat de François Hollande se termine dimanche prochain à minuit. Donc la passation de pouvoir a obligatoirement lieu avant, sauf autorisation au Conseil constitutionnel, etc. Bon, enfin, on ne voit pas vraiment pour quelle raison ça se produirait comme ça. Donc ça veut dire que la passation de pouvoir aura vraisemblablement lieu soit samedi prochain, soit dimanche, parce qu'il y a quand même un certain nombre de préparatifs importants, d'autant que la journée de demain va être prise par les cérémonies du 8 mai, auquel, j'imagine, l'élu d'aujourd'hui et le président sortant seront présents ensemble.
Et si la passation se passait un dimanche, ça serait une première dans la 5e République?
Oui. À ma connaissance, oui. Oui. Je suis à peu près sûr que c'est... Oui, d'ailleurs, on voit pas très bien pourquoi ça serait un dimanche, mais enfin bon, pourquoi pas, hein, après tout. Non, mais il y a des gens qui vont faire du sport, il y a des gens qui vont à la messe.
Il y a des gens qui entrent à l'Élysée.
Mais enfin, après tout, on est à une République laïque, donc c'est pas parce qu'il y a la messe le dimanche matin qu'on ne pourrait pas passer les pouvoirs présidentiels. Mais enfin, ça peut aussi avoir lieu l'après-midi. Mais là, les différents présidents de la 5e concernés par cette période qu'on appelle la période de transition, qui est beaucoup plus courte qu'aux États-Unis où ça dure 3 mois, ils préparent d'abord leur gouvernement, leurs premières mesures. Ils prennent contact avec tous les chefs d'État étrangers les plus importants au téléphone, parce qu'a priori ils ne se déplacent pas pendant cette période. Il y a un contact avec l'équipe de l'Élysée sortante pour organiser la journée, qui est une journée qui est parfois sobre mais parfois très riche en événements. Je pense qu'on en reparlera. Et puis il commence à travailler avec l'équipe qu'il va nommer à l'Élysée et le Premier ministre, dont on connaît normalement le nom le jour, dans les minutes qui suivent l'investiture officielle, mais il peut y avoir des fuites aussi. Mais par exemple, le dernier journée d'investiture, on a su que c'était Jean-Marc Ayrault que l'après-midi, même s'il y avait des rumeurs.
Il y avait eu une gaffe quand même. Hein,
oui, mais bon, on l'a su en début d'après-midi.
Restez avec nous, on va en reparler en effet, et je vous propose de nous replonger dans, dans l'histoire de la 5e et les passations de pouvoir, les soirées de résultats, tiens.
1965.
Pour le général de Gaulle, 39 159 voix. Pour M. François Mitterrand, 28 142. Le pourcentage est donc de 58,18% pour le général de Gaulle et de 41,81% pour M. François Mitterrand.
1969.
Monsieur Georges Pompidou sort victorieux de cette élection nationale avec 57,78% des suffrages exprimés. Élu président de la République pour 7 ans.
1974.
Il est 20h, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. C'est l'estimation ORTF Sofresse.
Vous m'avez désigné pour exercer cette fonction. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Vous ne serez pas déçu.
1981.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Nous avons tant à faire ensemble. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci.
1988.
En quelques secondes, je vous confirme ce qu'on disait tout à l'heure, la participation a été plus forte qu'au premier tour. À qui cette mobilisation a-t-elle profité? Nous le savons. François Mitterrand, président de la République pour la seconde fois.
1995.
Jacques Chirac, élu président de la République.
Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Il faut, avant de prendre quelque décision que ce soit, se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi?
2002.
Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix.
J'ai entendu et j'ai compris ce que les Françaises et les Français ont dit.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. Je serai le président de la République de tous les Français, sans exception.
2012.
François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Sofresse Sopra Group.
Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. D'autres, plus jeunes, ne l'avaient jamais connu. Le changement que je vous propose, il commence maintenant.
Le zapping d'Éric Lenné. Donc bientôt un nouveau chef de l'État. C'est la 10e fois qu'il y a des élections présidentielles lors de cette 5e République. Patrice Duhamel, est-ce qu'il y a un moment précis où le gagnant, la gagnante devient chef de l'État?
Oui, c'est le jour de l'investiture. Lorsque le président du Conseil constitutionnel, donc ce sera dans quelques jours Laurent Fabius, donne les résultats officiels et de manière solennelle dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. À ce moment-là, sont tirés 21 coups de canon. Voilà, c'est prouve que la République s'inscrit dans une longue histoire, puisque les coups de canon, ça remonte à la monarchie. Uh-huh. Donc 21 coups de canon qui sont tirés depuis l'esplanade des Invalides, en principe. Avant, c'était aux Tuileries, maintenant, normalement, c'est aux Invalides. Et le président prend ses fonctions à cette minute même. Quand c'est le matin, c'est autour de midi, midi et quart. Voilà, il devient solennellement et officiellement le président de la République, chef des armées.
Jean Lebrun, une question.
Alors, c'est toute la question, vous parliez, Patrice Duhamel, de République laïque, et votre documentaire s'intitule « Jour de sacre ». Il y a une continuité entre la République et la monarchie. Vincent Auriol, 47, il n'avait pas été content des conditions de la passation de pouvoir. Il était passé dans une voiture découverte devant une foule absente sur les Champs-Élysées, et il avait dit « Mon successeur, Coty, alors que moi je suis arrivé en parvenu, il viendra comme un roi ». Alors, est-ce qu'on est encore dans la continuité monarchique, est-ce que la République c'est si difficilement acceptable comme un phénomène naturel pour la population française ou pas?
Mais moi je pense que les Français aujourd'hui sont en train d'élire un monarque républicain en connaissance de cause. C'est la constitution de 1958, c'est aussi leur histoire. Ils y sont attachés, quelles que soient leurs convictions, quel que soit leur vote, qu'ils votent ou qu'ils s'abstiennent d'ailleurs. L'expression de monarque républicain, il y a quelques candidats, j'ai pas le droit de les citer, j'imagine, qui ont mis ça en cause pendant la campagne. Mais au fond du fond, les Français sont extrêmement attachés à cette constitution. Comme ils sont extrêmement attachés à ce rituel, comme ils sont extrêmement attachés à ce palais qui symbolise tout ça, puisqu'il va avoir 3 siècles dans 3 ans. Voilà, donc on élit un monarque républicain, c'est comme ça. Donc voilà, votre question est totalement justifiée de ce point de vue.
Hervé Brusigny.
Oui, parce que en même temps, je me demande si de l'intérieur, les présidents ne visent pas à vider le contenu monarchique de leur image. Par exemple, la photo officielle qu'on a dans toutes nos mairies, on voit bien qu'entre De Gaulle, qui est là avec le tabouret, en habit et tous les signes apparents et importants de l'institution, qui existe encore, mais plus de la même manière, jusqu'à Hollande, qui lui est dehors, dans le parc, avec... D'ailleurs, une petite erreur sur le drapeau, là, dans le fond, avec la photo de Depardon. Est-ce qu'on va pas, au contraire, vers une désacralisation de la fonction par le spectacle qui est donné?
Ils essaient de simplifier le protocole. D'accord. Et ça remonte à 74, c'est-à-dire 43 ans, c'est Giscard qui arrive... en costume de ville, à pied...
Avant, on était en jaquette, hein ?
Avant, on était en jaquette, et avant, on portait, pendant la cérémonie, le collier de grand maître de la Légion d'honneur, ce qui avait d'ailleurs provoqué une polémique en 81, parce que le patron, je sais plus quel est le titre, le grand chancelier de la Légion d'honneur, était le général de Boissieu, à ce moment-là, le gendre du général de Gaulle, et qu'il avait démissionné pour ne pas avoir à remettre cette décoration suprême à François Mitterrand, compte tenu de ce que Mitterrand avait dit sur le général de Gaulle, notamment dans le coup d'État permanent. Mais donc il y a encore ça, effectivement, mais... il cherche simplement à se moderniser, mais le monarque républicain, c'est pas lié seulement aux 21 coups de canon, au palais de l'Élysée, au protocole, aux huissiers, etc. C'est lié à la manière dont ils exercent la fonction et surtout à l'étendue de leur fonction. Puisqu'on si on ne prend que l'Union européenne, le président de la République française, c'est celui qui a le maximum de pouvoir entre les mains.
Une question de Jean Birnbaum.
Oui, dans tout ce décorum ou cette matérialité comme ça, espèce de symbolique du pouvoir, on en parlait juste avant la prise d'antenne, il y a la question du livre. Hein. Vous parlez dans votre documentaire et dans votre bouquin aussi de la façon dont les présidents ont posé devant leur bibliothèque, dont De Gaulle pose la main comme ça sur un livre. De ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas une rupture, hein? Parce que on voit bien que pendant très longtemps, quand les Français élisaient un président de la République, ils s'en remettaient quelque part aussi à une bibliothèque. Et ces présidents-là, quand on lit les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot, là récemment, on voit bien que c'est des lettres, sa politique était exercée en permanence à l'horizon du livre. Alors que récemment, on a vu toute une génération de politiques qui se sont presque prévalues de ne pas lire de livres, ou en tout cas de ne pas lire de romans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce décorum et à l'Élysée une sorte de désertion du livre et un rapport, une rupture dans l'histoire de la République?
Désertion, non, parce que la plupart des présidents... plus ou moins cultivés ont fait des efforts de ce point de vue-là et l'ont fait savoir. Donc ils l'ont fait de manière médiatique, en invitant des historiens, des romanciers à venir les voir, etc. Mais c'est vrai que dans leur racine culturelle et dans leur consommation culturelle... Bon, par exemple, François Hollande, il lit beaucoup de biographies, il lit des livres d'histoire parce qu'il est passionné par la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais il lit très peu de romans, voilà. Mais c'est un peu la rupture, enfin bon, à tort ou à raison, moi je considère qu'on est passé à autre chose, et pas seulement à cause du quinquennat. À la fin de Chirac, parce que le premier quinquennat, c'est celui de Chirac, mais c'était plus la continuité du septennat. Les deux premiers quinquennats, ce sont ceux de Sarkozy et de Hollande. Je pense qu'il y a une coupure là, qui est à la fois une coupure culturelle et une coupure politique et historique, parce que ce sont les deux premiers présidents qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale. Tous les autres s'inscrivaient quand même dans ce cadre général, quoi qu'ils aient fait d'ailleurs pendant la guerre. Et je pense que la coupure, elle est aussi là, elle est historique et culturelle.
Jean Lebrun, une question.
Alors, il y a la cérémonie.
Mais pardon, excusez-moi, Jean. Juste celui des trois premiers, des présidents qui ont posé avec un livre. On voit De Gaulle qui pose la main sur un livre. Les mémoires du maréchal Weygand, qui était un de ses adversaires, donc il était fou furieux. Et François Mitterrand avec les essais de Montaigne. Mais le plus, celui qui a... qui s'identifie le plus à la limite à une certaine forme de littérature, et en l'occurrence à la poésie française, Georges Pompidou, normalien, qui a écrit une magnifique anthologie de la poésie française. Lui, il est président, le collier, mais on ne le voit pas avec un livre. Voilà. Donc,
Jean Lebrun, la question, et puis on y reviendra peut-être après les titres du journal
de
13h.
Alors, il y a ce qui est public, la cérémonie officielle, Giscard qui remonte à pied les Champs-Élysées, François Mitterrand au Panthéon, mais les Français, puisqu'ils sont encore monarchistes, adorent les secrets. Qu'est-ce que se disent les deux présidents pendant l'entretien qui précède la passation des pouvoirs? Il paraît que Giscard a abordé 4 points en 1974, qu'il a pris une fiche, il a décapuchonné son stylo pour que Mitterrand se souvienne bien de ce que il lui avait dit. Mitterrand dit « Oui, j'ai compris ». Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit?
Et Giscard a dit « Ça n'avait pas l'air de beaucoup l'intéresser ». Oui, il n'y a eu que 4 passations de pouvoir. 10 élections, 8 présidents, mais 4 passations
mais
de pouvoir.
Mais c'est bien de le refaire.
Parce que De Gaulle était parti et Georges Pompidou, le malheureux, avait disparu. Et la plus importante de toutes, enfin selon moi, c'est effectivement 81, Giscard-Mitterrand. Et Giscard a écrit dans ses mémoires, Mitterrand a dit des choses un petit peu différentes, mais enfin bon, on a quand même recoupé, il y a des vrais secrets d'État. Et notamment, moi, quand j'avais appris ça il y a une vingtaine d'années, donc ça n'a été su que 20 ans après, le 21 mai 1981, il lui a dit, Monsieur Mitterrand, il y a une opération qui est initiée par le président égyptien Sadat, soutenue par les Américains et par quelques pays européens, dont la France, et qui a pour objectif d'aller assassiner Kadhafi. C'est quand même, c'est un vrai secret d'État, ça, quand même. Alors, je ne sais pas après, d'ailleurs, si c'est Mitterrand qui a bloqué l'opération, puisqu'elle ne s'est pas faite, mais c'est des vrais secrets d'État.
Retour sur le plateau de questions politiques et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT, la chaîne France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour le magazine politique que vous propose France Inter, Le Monde et France Télévisions. Dimanche 7 mai 2017, dimanche de second tour, questions politiques et émission spéciale. À mes côtés, Hervé Brusigny de France Télévisions, Jean Lebrun de France Inter et Jean Birnbaum du journal Le Monde. Notre invité est le journaliste Patrice Duhamel. Son documentaire « Jour de sacre » sera diffusé quand d'ailleurs, Patrice ?
Dimanche prochain sur France 5 et 2 jours plus tard sur France 2 en seconde partie de soirée.
Un documentaire consacré aux passations de pouvoir durant cette 5e République. Vous nous rappeliez à l'instant qu'il y en avait eu 4. 4 passations de pouvoir. Et nous étions sur cette question du moment où l'ancien chef de l'État accueille le nouveau chef de l'État Jean Lebrun nous rappelait qu'ils ont un entretien qui se déroule dans une pièce particulière.
Le plus souvent dans le bureau du président sortant, qu'on appelle le bureau du général de Gaulle à l'Élysée.
Et quand je parlais de mystère, cet entretien, il est mystérieux. Il y a donc eu un entretien avec celui que vous considérez le plus important ou celui dont on sait le plus de choses, c'est l'entretien Giscard Mitterrand.
Oui, le plus important parce que c'est la première alternance, parce que c'est la première tout simplement passation de pouvoir, puisque de Gaulle était parti, avait quitté l'Élysée avant de démissionner et que Georges Pompidou avait disparu. Et c'est la plus significative parce que et la plus intéressante historiquement parce que on a su longtemps après, hein, 10, 15, 20 ans après, mais on a su à peu près dans le détail. On a pu recouper ce qui s'était dit ce jour-là, puisqu'ils sont que tous les deux. Donc on ne sait que ce qu'ils vont écrire ou raconter.
Et alors, Mitterrand en a parlé le premier, et Giscard a dit « Je n'en parle que parce que Mitterrand a commencé à en parler
ouais. ». Voilà, absolument.
Alors, ces secrets, ils se sont confiés des secrets, vous disiez, avant...
Une opération visant à assassiner Kadhafi, des négociations secrètes entre la France et les États-Unis sur le nucléaire militaire... Et alors un problème particulier qui n'est pas réellement un secret, qui est une situation tout à fait extraordinaire, je ne sais pas si les auditeurs et les téléspectateurs le connaissent, c'est la situation du dernier condamné à mort français, qui s'appelle Philippe Maurice, qui avait été condamné à mort en 80. Giscard préféré, connaissant la position de Mitterrand, qui était pour l'abolition de la peine de mort, a attendu l'élection pour que le
problème... Il a suspendu la peine, pour
et,
que Mitterrand prenne la décision.
Ce condamné à mort a été gracié partiellement et c'est Robert Badinter qui est allé lui annoncer lui-même, alors qu'il n'était pas encore garde des Sceaux. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était Maurice Faure, le garde des Sceaux. Il a été gracié partiellement 4 jours après l'installation de François Mitterrand.
Et il est devenu docteur en histoire.
Et c'est aujourd'hui un grand universitaire.
Hervé Brusigny.
Je trouve qu'il y a une passation de pouvoir qui est extrêmement émouvante, c'est celle entre Chirac et Mitterrand. Plutôt entre Mitterrand et Chirac, parce qu'il y a là quelqu'un qui est... On parlait de monarque, le monarque est au seuil de la mort, et puis on a un autre qui arrive, et on voit bien qu'il y a du mal de la part de Chirac à laisser aller l'autre vers ce destin funeste. C'est un peu ça, votre point de vue aussi, c'est celle qui est la plus dense en matière de sentiments.
Je pense que c'est la plus émouvante, parce que je considère qu'elle est presque tendre. Ces deux hommes se sont incroyablement combattus. La cohabitation de 86 à 88 a été d'une rugosité absolument incroyable entre les deux hommes. C'est à l'époque où Mitterrand disait ce qui est commode avec Chirac, c'est qu'il n'a aucune conviction. Quand il vient me voir, il monte les escaliers avec ses idées, il redescend avec les miennes. Je trouve absolument magnifique. Mais ça fait partie des phrases de, voilà. Oui. Mais Mitterrand a voulu faire un geste. Lui, s'était fait faire pour les dernières années de son second mandat un bureau par le designer Pierre Paulin, un grand designer auquel Beaubourg a rendu hommage il n'y a pas longtemps.
Un bureau bleu qu'on voit dans votre documentaire.
Et que Georges Pompidou déjà avait fait rentrer à l'Élysée. Et sachant combien Chirac était attaché à la mémoire du général de Gaulle, avant de quitter son bureau, Mitterrand a fait réinstaller le célèbre et vieux bureau qui a été utilisé par le général de Gaulle depuis le début. Et puis après, il y a ces fameux échanges rentrés dans la légende sur Mitterrand disant à Chirac, j'ai fait venir des petits colverts, des petits canards de Château de Rambouillet, ils sont en train de barboter dans le bassin au fond du parc, il faut que vous en preniez soin, je sais que vous avez des labradors.
Ça n'est pas vraiment un secret présidentiel.
Non, ils l'ont dit tous les deux, ça. Chirac l'a écrit dans ses mémoires, Mitterrand l'a confirmé, mais les canards ne sont pas restés longtemps.
Une question de Jean Birnbaum.
Est-ce que cet entretien finalement de passation de pouvoir, c'est pas aussi, vous disiez, c'est un moment où on se confie des secrets, est-ce que c'est pas aussi un des rares moments, peut-être le dernier moment où le président entrant va se faire entendre dire quelques vérité, peut-être pas ces quatre vérités, mais une vérité. On parlait de la continuité entre la monarchie et la République. S'il y a bien une continuité, c'est aussi le phénomène de cour qui fait que quand le président entre à l'Élysée, il se retrouve tout d'un coup entouré de flatteurs à gages qui ne lui disent plus grand-chose du point de vue de la vérité. Et donc j'ai apporté ce petit texte du baron d'Holbach, ami de Diderot et grande figure des Lumières. Et le texte s'appelle « Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans ». Ça devrait être lu par beaucoup, beaucoup. Et il dit par exemple « Un bon courtisan ne doit jamais avoir d'avis. Il ne doit avoir que celui de son maître ou du ministre et sa sagacité doit toujours le lui faire pressentir. Ce qui suppose une expérience consommée et une connaissance profonde du cœur humain, un bon courtisan ne doit jamais avoir raison. » Finalement, entrer à l'Élysée pour un président, c'est aussi tout d'un coup, après cette petite passation de pouvoir, se retrouver entouré de gens dont l'horizon est une espèce de complaisance empressée.
La seule vraie passation de pouvoir, je vais revenir à cet extrait qui est passionnant, mais la seule vraie passation de pouvoir dont on est à peu près sûr qu'elle a été totalement glaciale, malgré ce qu'ils ont dit après, en disant bah « non, ça s'est pas si mal passé », etc., c'est Hollande-Sarkozy. En 2012. Parce que il faut distinguer la passation de pouvoir à peu près normale et puis la passation de pouvoir avec deux hommes. Bon, jusqu'à présent, ça a toujours été deux hommes. J'espère que ça sera un jour deux femmes ou un homme et une femme qui viennent de s'affronter, qui 10 jours avant étaient encore dans le face-à-face en train de s'étriper, plus ou moins courtoisement. Donc, Hollande-Sarkozy, ça a été très musclé, avec des reproches de ce que on peut savoir,
des reproches personnels sur le fait que l'un
et l'autre avaient dit des choses incorrectes sur les conjointes ou les femmes, etc. Enfin, des choses personnelles, et ça s'est vraiment pas bien passé. Je dis pas que ça explique et que ça justifie le fait que Hollande ait évidemment manqué un peu de courtoisie républicaine en n'accompagnant pas Sarkozy jusqu'au bout, ce qu'il a d'ailleurs regretté quelques temps plus tard, mais il y avait un climat qui était terrible à ce moment-là. Pour reprendre ce que vous dites, c'est une des choses, je vais à l'Élysée depuis 69, fin 69, une des choses qui m'a toujours frappé, et pourquoi il y a ce qu'on parle de bulle, d'isolement, d'un président coupé des réalités, etc., qui est la vérité pure et simple, quels que soient les présidents. Alors, ne parlons même pas sous le général de Gaulle, c'est la solitude du pouvoir, parce que quand on disait Mitterrand, qu'est-ce qui isole, il disait c'est le pouvoir, il a raison, surtout le président de la République, avec tous les moyens dont il dispose à titre personnel. Hein, la force de frappe, le droit de dissolution, la nomination du Premier ministre, etc., etc. Bon, donc la solitude du pouvoir, la solitude du lieu, qui est un lieu qui isole, cette espèce de bulle, on est un peu loin de tout, et la solitude liée au fait que les courtisans, mais pas seulement les conseillers, ceux qui viennent vous voir le soir, ce qu'on appelle les visiteurs du soir, les éminences grises dans le civil ou dans la politique, qui viennent tous les voir. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de présidents, et encore François Hollande pour le livre il y a quelques mois, qui disait mais la plupart des gens qui viennent nous voir nous disent qu'on est formidable, qu'on est magnifique, et si ça va pas bien, ça ira mieux. Donc ils sont totalement isolés. De Gaulle, qui sentait ça. C'est une petite anecdote, mais qui est révélatrice. Quand il faisait venir son coiffeur en le payant dans la salle de bain de ses appartements privés, le coiffeur a raconté, qui était un vieux gaulliste, parce que De Gaulle ne faisait travailler que des vieux gaullistes, et il arrivait avec son matériel, il s'installait, et De Gaulle lui disait toujours la même chose. « Alors, qu'est-ce qu'on dit chez vous ?» Parce qu'il savait très bien que dans les salons de coiffure, on dit la vérité, beaucoup de choses. Et De Gaulle était entouré de courtisans comme les autres. C'est un énorme problème pour l'élu d'aujourd'hui.
Je vais passer la parole à Jean Lebrun, mais d'abord je voudrais vous rappeler que c'est un moment interactif et que vous pouvez aussi, auditeurs, téléspectateurs, poser vos questions. Par téléphone, ça se passe au 01 45 24 7000, sur internet c'est le site franceinter.fr et puis par Twitter avec le mot-clé question Paul, question c'est au pluriel. Jean Lebrun.
Alors l'interactif, la participation de la population, c'est un moyen peut-être de se débarrasser de la gangue des courtisans. Il y a des récits très drôles de la cérémonie du Panthéon où les futurs ministres de Mitterrand sont furieux de se retrouver au deuxième, troisième, quatrième, cinquième rang, jouent des coudes pour revenir au premier. Celui qui a voulu donner le premier une dimension populaire à la manifestation, au sacre, c'est quand même Valéry Giscard d'Estaing, en remontant à pied les Champs-Élysées, oui. Et on l'a accusé de vanité personnelle.
J'étais derrière lui avec un micro commentant la cérémonie en direct. Je sais pas, je l'ai pas ressenti tout à fait comme ça à ce moment-là. Il y avait beaucoup de monde. C'était extrêmement joyeux. Mmh. Et qu'est-ce qui a été dit?
Bah, on a toujours reproché à Valéry Giscard d'Estaing de se mettre en avant personnellement, alors que dans cet instant précis, il souhaitait associer les Français.
Oui, mais c'est pas le fait qu'il remonte à pied, à mon avis. Je pense que quand on est debout dans une voiture décapotable, sous le soleil ou sous la pluie, et qu'on salue la foule, c'est un petit peu la même chose. Mais Giscard, pas plus que les autres, n'a réussi à savoir exactement. Il a fait. Je dirais que lui, il a, par exemple, fait l'effort entre guillemets d'aller dîner chez les Français, mais les récits qu'on en a eus, c'était quand même extrêmement artificiel, parce que les Français qui étaient absolument tétanisés de recevoir le président et sa femme chez eux, ils n'allaient pas leur dire « ça va mal, on est inquiets, on est en colère », etc.
Voilà. Mais je veux dire que c'est toujours le même débat, onction populaire, onction sacrée.
Oui, et puis absolument. Et puis, il y a un autre problème, pardon de dire ça sur un média, mais de toute façon, il est incontournable maintenant.
Je vous en prie.
C'est quand un président sort, alors d'abord, il y a en général quelques manifs et puis un énorme cordon de sécurité, mais il y a aussi un mur de caméras et de micros. Le président, il voit pas les Français quand il sort, qui va en déplacement. François Hollande, qui sortait presque deux ou trois fois par semaine, il avait pas le dialogue. Alors, on verra celui qui sera élu ou celle qui sera élue aujourd'hui.
Arriver à l'Élysée, c'est l'isolement.
Mais justement, Hervé Brusigny. Pour rompre l'isolement, il y a un autre moyen, c'est l'escapade. On peut, comme ça, en catimini, sortir. Qui est le roi de l'escapade parmi ceux que vous évoquez?
François Mitterrand, qui voulait absolument... D'abord, lui, il avait la religion du retard, il faisait exprès. Et quand il arrivait à l'heure pour une cérémonie, il demandait à son chauffeur d'attendre pendant 10 minutes, parce que par principe, et voilà, il a même fait attendre la reine Elisabeth, qui est quand même, pour le protocole élyséen et républicain, sans parler du protocole britannique...
C'est il était en retard le jour de son investiture aussi.
Il était en retard du côté de... Oui.
Non, mais c'est Giscard, le roi de l'escapade.
Moi, je croyais que c'est Giscard.
En 1980, entre-deux, il promène son labrador sur les Champs-Élysées, et voilà que le labrador lui échappe. Et il cherche son labrador devant les passants un peu stupéfaits.
Mais ça veut dire... Ça dépend ce qu'on... Je pensais que l'escapade, la volonté de sortir Mitterrand, il essayait de sortir, il allait se promener sur les quais. Il allait dans les librairies, il essayait de sortir beaucoup. Et puis on savait jamais. Là maintenant, pudiquement, ça c'est la légende mitterrandienne. On dit non, il habitait pas à l'Élysée, il habitait rue de Bièvre. Il habitait pas du tout rue de Bièvre. Il habitait entre ce qu'on appelle les écuries du roi, qu'est Branly, des dépendances de la République où habitaient Anne Pinjot et Mazarine. De temps en temps, il dormait à l'Élysée et rarement rue de Bièvre. Mais alors oui, il y a eu l'escapade célèbre de Giscard. Et l'affaire du laitier, n'était pas, a-t-il dit après, un camion de laitier, mais l'heure du laitier, c'est-à-dire 5 heures du matin.
Patrice Duhamel, je vous coupe parce qu'on a Sylvie qui nous envoie une question par mail. Tout à l'heure, elle réagit au fait qu'on parlait des secrets qui se transmettent de président à président. Il y a évidemment le secret, nous dit Sylvie, des codes nucléaires, du feu nucléaire. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça s'est transmis, comment ça se transmet aujourd'hui?
Le code, alors ça évolue au fil des temps. Parce que maintenant, avec la technologie, c'est beaucoup plus simple. On est dans l'informatique absolue, etc. Au début, pour De Gaulle et Pompidou, on est vraiment dans le romanesque, c'est-à-dire que tous les deux avaient un numéro sur un bout de papier qu'ils mettaient
dans
un petit médaillon qui pendait au bout d'une chaîne. Et De Gaulle, sur ce médaillon, il y avait la photo, c'est très tendre, de sa fille Anne, qui était une fille handicapée, qui était morte quand elle avait 20 ans. Mais c'était un numéro que De Gaulle avait écrit lui-même, 5 chiffres. Alors je rentre pas dans les détails, je suis pas un militaire, mais ce sont 5 chiffres, non pas qui déclenchent le feu nucléaire, mais qui permettent d'identifier que c'est bien le président de la République qui est là et qui donne l'ordre d'actionner le feu nucléaire. Bon, maintenant c'est beaucoup plus sophistiqué. Ça se tient dans une mallette qui est échangée avec les chefs d'état-major particuliers.
C'est donc cela qu'il y a dans la fameuse mallette. C'est donc
oui, notamment, ouais. Notamment, mais il y a d'autres choses, mais il y a notamment les moyens d'actionner le feu nucléaire, où que soit le président.
Il y a une très belle séquence dans Hervé le Brésigny. Film, c'est Mitterrand oui. qui ment
quelle mallette.
De manière épouvantable, oui. en disant « mais il y a mon rasoir dans
oui,
la mallette ».
Absolument, oui.
Il y a aussi l'anecdote sur le fait que Pompidou meurt, et que devient son médaillon ? Pendant une nuit, il va rester
Non, il l'a confié à sa femme, ouais. qui l'a mis dans une enveloppe, et qui le donnera au Premier ministre... de l'époque qui était Pierre Messmer, mais il y a beaucoup d'autres quand Alain Poher après la démission du général de Gaulle vient s'installer à l'Élysée, il y a personne, c'est la Belle au bois dormant, et ils ont mis 3 jours à récupérer le code nucléaire parce que l'équipe sortante voilà, et l'état-major militaire ne voulait pas lui donner.
Il y a eu un autre moment où l'Élysée, c'était le palais de la Belle au bois dormant, c'est 81. Quand Mitterrand arrive, l'Élysée, il n'y a personne, Charras dit, il n'y a pas un trombone, oui, tout oui, a été oui. vidé, racontez-nous ça.
Oui, oui, bah, c'est souvent comme ça quand il y a des passations de pouvoir, et encore plus quand ça a été fait dans une atmosphère dramatique. En 69, c'est le départ du général de Gaulle de l'Élysée, c'est quelque chose d'absolument incroyable, historiquement. Et puis la manière dont ça s'est passé, le fait qu'il quitte l'Élysée en demandant expressément à son chauffeur d'utiliser le même itinéraire que Napoléon le 22 juin 1815, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Giscard qui perd et le premier président socialiste de la Ve République qui arrive, là aussi,
il
faut se souvenir qu'à ce moment-là,
peur.
Il y a des hommes politiques qui disaient « les chars russes vont déferler sur la place de la Concorde ». Donc voilà.
Patrice Duhamel, nous avons Vincent au bout du fil qui vous appelle pour vous poser une question. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Vous appelez d'Angers?
Voilà. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle monarchique du président de la République. Et moi, ça me pose une question parce que le devoir d'un président de la République n'est-il pas d'être le garant des institutions républicaines encadrées par le préambule de la Constitution? Or, le préambule de la Constitution garantit, lui, la souveraineté du peuple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part?
Bonjour Patrice Vincent. Non, mais vous avez la contradiction, elle est assez simple. C'est que, je pense, le président n'a jamais dit, sous la Ve République, depuis bientôt 60 ans, qu'il se considère, lui, comme un monarque républicain. Aucun des 7 présidents qui ont exercé leur fonction ne l'ont dit. C'est la perception des Français, des observateurs, des historiens, des constitutionnalistes, tout le monde dit la constitution de la Ve République fait de, et dans une perspective historique, avec de d'où l'on vient, de la monarchie, fait du président de la République un monarque républicain. Mais vous avez raison sur la manière dont il doit bien entendu défendre les institutions de la République, la démocratie, dans toutes les circonstances, etc., bien entendu.
Alain Poher avait une jolie formule, il disait « je suis le sous-locataire de l'Élysée ».
Oui,
ça voulait dire
oui.
que les oui. autres occupants de longue durée étaient des locataires.
Hollande n'a cessé de dire pendant les 5 ans « je ne suis qu'un locataire de passage », bien entendu.
Jean Birnbaum, votre question.
Oui, c'était bon dans la question de Vincent aussi, qui soulignait, il disait, est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Alors, c'est vrai que la démocratie est ce régime dont la force vulnérable et la beauté et les limites, c'est que les bourrés et ravagés et travaillés et minés en permanence par des contradictions. Ça rejoint l'enjeu de l'escapade de tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un philosophe qui s'appelle Claude Lefort qui disait toujours que la démocratie, c'était cette contradiction-là centrale, qui est que d'un côté, c'est le régime où le pouvoir appartient au peuple, et que d'un autre côté, c'est le régime où le pouvoir, personne ne doit pouvoir mettre la main dessus, où en fait, le lieu du pouvoir, personne doit pouvoir l'habiter, justement. C'est-à-dire qu'il disait la démocratie, c'est le pouvoir le régime où le pouvoir est un lieu vide et doit le rester. Ce qui fait que, de ce point de vue, on reproche toujours au président le fait que l'Élysée soit de moins en moins habitée, de moins en moins occupée par quelqu'un de fort, etc. En fait, cet Élysée plein d'escapades ou déserté, c'est aussi l'Élysée, c'est une institution qui emblématise au mieux cette contradiction, cette fragilité qui fait la force des démocraties.
Oui, je pense que quand il y a eu un sondage il y a quelques mois sur la perception que les Français avaient du palais de l'Élysée. Et toute conviction confondue, extrême droite, extrême gauche, extrême centre, etc., etc., arc républicain, pas arc républicain, je crois que c'est massivement à 70%, les Français ont dit, mais on aime le palais de l'Élysée et on veut que le locataire, je sais pas s'ils disent locataire d'ailleurs, eux, il reste, il n'est pas question d'aller ailleurs, comme certains l'ont envisagé. Mais pour reprendre ce que vous disiez, je suis totalement d'accord. Et dans la perception, je pense, des Français du monarque républicain, pour revenir à la question de Vincent, il y a aussi le fait que, même si les gens ne le connaissent pas, malheureusement, et malgré tous les efforts louables et formidables de Jean Lebrun tous les jours sur cette radio, ne connaissent pas très bien l'histoire de France, ils savent quand même qu'il y a eu Napoléon Ier, Napoléon III dans ce palais. Et c'est pas seulement les présidents de la République qui y ont travaillé et qui y ont habité.
Ah, justement, la parole à Jean Lebrun.
Il y a une question révélatrice, c'est celle des archives, parce qu'on nous parle tout le temps des cartons, les gueules béantes des cartons, qu'est-ce qu'ils vont emporter chez eux. Enfin, on s'en fout. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font des archives officielles qu'ils ont accumulées pendant leur fonction? Et il y a une loi, maintenant, très claire, les papiers des présidents de la République, en ce qui concerne les fonctions officielles qu'ils ont exercées, doivent aller aux archives nationales, où ces papiers seront communiqués selon les règles légales.
Avec l'autorisation des ayants droit.
Voilà. J'espère que le président actuel sera un président normal et versera normalement ses archives, parce que quand même la tendance naturelle des hommes politiques, c'est de considérer comme leur bien propre ces archives qui nous appartiennent à tous.
Patrice Alors, Duhamel. Vous qui êtes un historien distingué, avec une précision à apporter, qui est qu'est-ce que c'est qu'une archive? Est-ce qu'une lettre manuscrite, personnelle, à même un chef d'État étranger, c'est une archive?
Alors,
tous les documents, tous les comptes rendus de conseil des ministres, etc., c'est évidemment une archive officielle. Après, quand on rentre dans l'intime, est-ce que c'est une archive?
C'est mieux quand tout est versé, tout ou partie, aux archives nationales que quand tout ou partie est confié à un institut qui porte le nom du président sortant et où les règles de communication appartiennent aux anciens amis du président.
Au réseau.
On a une question de Marie d'Île-de-France pour vous, Patrice Duhamel. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bienvenue, vous pouvez poser votre question.
La suivante. Nous sommes dans une France très endettée. Pour faire des économies, ne pourrait-on pas arrêter les privilèges des anciens présidents, nous en avons actuellement, je ne sais pas, au moins quatre, des premiers ministres, des sénateurs, tant par émoluments, bureaux, chauffeurs, voitures, transports, etc. Et qu'ils reprennent un petit peu la vie des anciens, des simples citoyens, comme nous, qui on est obligés de faire attention pour payer nos impôts qui augmentent toujours. Ensuite de ça, faire attention à ne pas arriver à la fin du mois.
Alors, les privilèges. Merci Marie pour votre question. Les privilèges des anciens présidents et ce débat, oui, sur...
Oui, et pas seulement les anciens présidents.
Non, elle l'a bien dit, Marie, d'ailleurs.
Oui, Marie, j'ai bien entendu la question. Alors, d'abord, juste un point pour vous dire que depuis une bonne dizaine d'années, ça s'est accentué avec Hollande, mais ça existait déjà sous Sarkozy, qui lui-même avait décidé que la Cour des comptes, qui jusque-là n'avait rien à faire dans le budget de l'Élysée, devait le contrôler. Et le budget de l'Élysée a diminué. Maintenant, on en est à, je crois, un tout petit peu moins de 100 millions d'euros, alors qu'il y a c'est très 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 coûteux à entretenir et qu'il y a à peu près 900 personnes qui travaillent dans ce palais. Après les privilèges des anciens présidents. Je sais qu'il y a eu un décret récent pour les limiter dans leur ampleur et dans le temps, donc ça me paraît aller dans la bonne direction. En même temps, d'assurer à un ancien président de la République, par exemple, une sécurité, ça me paraît assez logique, même si elle doit être allégée au maximum, mais ça me paraît assez logique. Moi, il y a une chose qui revient à un problème budgétaire, mais qui est pas l'essentiel, je sais pas ce que nos amis en pensent, c'est le fait que on continue à permettre aux anciens présidents de la République, je crois qu'Hollande a dit qu'il n'irait pas, mais d'aller automatiquement d'être membre de droit du du Conseil constitutionnel, parce que avec des quinquennats et avec un rythme d'alternance et de dégagisme, ça veut dire que dans 20 ans, il y aura une majorité d'anciens présidents au Conseil constitutionnel. Oui. Franchement, ça tient pas debout, parce qu'ils sont forcément jugés partis. Et là, il y a un problème de ce côté-là. Juste un dernier mot, puisque Marie parlait des parlementaires, etc. D'abord, je crois qu'il y a un certain nombre de candidats qui ont proposé et ont promis de diminuer le nombre des parlementaires. Ensuite, là, pour le coup, autant moi je suis hostile à tous les privilèges exorbitants, bien entendu, autant je trouve que parfois il y a un petit peu de démagogie dans les revenus des parlementaires, parce que ce sont quand même des responsables politiques qui ont besoin de pouvoir travailler normalement avec des assistants, etc.
Ça fait partie d'un grand débat.
Mais je suis d'accord avec Marie sur parfois l'excès d'un certain nombre de privilèges.
Juste une anecdote, mais c'est vous qui me l'avez apprise. Le général de Gaulle, il avait le souci des économies, il avait le souci du conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait installer quand il est arrivé?
La première chose que le général a demandé le jour où il s'est installé à l'Élysée, le 8 janvier 59, il a dit: vous m'installez un compteur d'électricité dans les appartements privés pour que je puisse payer mon électricité moi-même. Et le lendemain, Yvonne de Gaulle est allée au Bon Marché acheter la vaisselle, parce que pour leurs repas familiaux, il n'était pas question d'utiliser la vaisselle de l'État, il fallait que ça soit la vaisselle familiale.
Et depuis ?
Depuis, ça a un peu changé.
Beaucoup changé.
Hervé Brusigny, votre question.
Il y a le monarque républicain, il faut le voir. Il y a la télé qui arrive à l'intérieur de l'Élysée. Maintenant, à tout moment, le président de la République peut prendre la parole en pleine nuit, on l'a vu avec Hollande, et se manifester sur Dieu sait quelle catastrophe que vit le pays. Ça s'est fait comment, ça? Avec réticence? L'Élysée, c'est un studio de télé actuellement?
Il y a maintenant deux studios prêts à fonctionner immédiatement. Le studio où ont lieu les comptes rendus des conseils des ministres, c'est dans une dépendance de l'Élysée, rue de l'Élysée, mais dans le salon Napoléon III, à côté de la salle des fêtes de l'Élysée, il y a maintenant tout un système de lumière, de pupitres, etc., un fond aussi qui permet au président, en 10 minutes, un quart d'heure, de pouvoir s'adresser au pays.
Allez, il nous reste quelques secondes pour une réponse, une question brève, une réponse brève, si vous le voulez, Jean.
Vous ne trouvez pas qu'on parle de tout ça avec trop d'emphase? Valéry Giscard d'Estaing disait « L'Élysée, au fond, c'est le lieu où j'ai commencé à enlaidir ».
Oui. Absolument. Oui.
Et puis alors la phrase de Christophe.
C'est une forme d'emphase d'ailleurs aussi.
La phrase de Christophe Barbier sur 81. Les pneus qui crépitent sur le gravier de l'Élysée évoquent le bruit des chaînes qu'on abat.
Ah oui. Bon, merci Jean. Merci à vous, Patrice Duhamel, d'avoir été notre invité. Ce dimanche, votre documentaire Jour de sacre à l'Élysée, ce sera à voir sur France 5 le 14 mai à 20h45 pour la première diffusion. Fin de cette première partie, nous allons nous retrouver après le journal de 13h. Question politique, ça continuera avec le directeur des hôpitaux de Paris, l'ancien président d'Emmaüs, Martin Hirsch. Retour sur le plateau de questions politiques, le rendez-vous que vous propose France Inter, la télévision France Info et Le Monde. Seconde partie de notre émission spéciale, je salue Martin Hirsch qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À vous. Martin Hirsch, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui le patron des hôpitaux de Paris. Vous avez également été le président d'Emmaüs France de 2002 à 2007. Mmh. C'est une fonction dont vous avez démissionné pour faire partie d'un gouvernement, le gouvernement Fillon 1 puis 2. Jusqu'en 2010, vous étiez haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Et donc, nous allons en parler ce dimanche. Nous allons parler de la pauvreté, de la santé, deux défis pour les mois qui s'annoncent. Mais aussi, et c'est un sujet sur lequel vous avez écrit, d'engagement, de citoyenneté, de, de démocratie. À mes côtés, pour vous interviewer, mes confrères et collègues et toujours amis, Hervé Brusini de France Télévisions, Jean Lebrun de France Inter, notre monsieur histoire, et Jean Birnbaum du journal Le Monde. Nos questions, ce sera jusqu'à 13h15 environ, ou plutôt 13h30 environ, car ce serait déjà trop tard. puis vers 13h30, les questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, des tweetos. Je vous rappelle comment faire par téléphone, c'est au 01 45 24 7000. Par internet, c'est sur le site franceinter.fr et sur Twitter, il y a un mot-clé, c'est Question Paul. Question au pluriel. Voilà, c'est un rendez-vous interactif. Nous attendons vos questions à Martin Hirsch. Juste la règle de ce jour, je vous la rappelle, pas de commentaires, pas de prise de position politique. Tout ça, ça sera à partir de 20h ce soir. Pour le moment, certains sont encore dans l'isoloir. S'il vous plaît, pas de prise de position partisane. Martin Hirsch, première question. C'est une question sur cette image qu'ont certains du pays, un pays en déclin. Alors vous, à la tête des hôpitaux de Paris, ancien président d'Emmaüs, vous êtes aux premières loges pour nous dire si la France, vous la voyez comme un pays en déclin, comme un pays qui s'appauvrit.
Moi, je ne pense pas qu'on soit un pays en déclin ou un pays qui s'appauvrit. Je pense qu'on est un pays sur le fil du rasoir. Comme l'ensemble de l'Europe ou une grande partie du monde est à peu près sur le fil du rasoir. Moi, c'est ça ce qui me frappe et qui est commun, je dirais, à beaucoup de problématiques, qu'elles soient des problématiques démocratiques, qu'elles soient des problématiques de pauvreté sociale, économique. J'ai vécu dans ma jeunesse à une époque où je pensais que tout ce qui était acquis était strictement irréversible. Que je vivrais une vie peut-être ennuyeuse, où la pauvreté diminuerait tranquillement, où l'espérance de vie s'allongerait perpétuellement, où la paix serait un acquis pour toujours, où l'Europe serait solide, où tous ces éléments qui ont été acquis dans le troisième quart du XXe siècle, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, seraient des choses qu'on aurait à pousser, dans lesquelles on aurait à s'inscrire. Et puis, depuis quelques années, on vit avec l'idée que tout ça peut se basculer dans un sens ou dans un autre. Et je trouve que c'est ça ce qui caractérise notre société aujourd'hui, nos problématiques. Donc la pauvreté, je reprends la pauvreté, elle ne diminue pas depuis un certain temps. Moi, je me souviens avoir essayé de la faire baisser. On l'a fait baisser un petit peu, puis elle est remontée après. Quand on prend les quinquennats précédents, la pauvreté, voilà, c'est pas complètement aggravé, mais...
On dit qu'on a près de 9 millions de pauvres, 14% voilà, de la population.
Un peu plus de 14% de la population.
Et ça a un peu augmenté.
Voilà. Mais d'un autre côté, être pauvre aujourd'hui, le seuil de pauvreté est à 1003 euros par mois ou 1008 euros par mois. Il était beaucoup plus bas avant. Les conditions de pauvreté sont pas exactement les mêmes que celles... Voilà. Donc, grosso modo, ça ne s'améliore pas. Puis, ça peut s'empirer ou ça peut... Voilà. Et donc, je trouve que c'est ça les défis d'aujourd'hui. C'est de montrer qu'on peut... si on y tient au progrès, à la paix, voilà, qu'on peut le repousser, remettre dans le bon sens.
Une question de Jean Lebrun.
Oui, mais il faut peut-être être plus concret, Martin. Mais je vous rappellerai un exercice.
On part de l'abstrait pour aller vers le concret, mais.
Je vous rappellerai un exercice que vous avez fait. J'ai lu ça dans votre biographie par Monique Dagneau. Vous êtes haut commissaire. On n'avait pas vu le président Sarkozy depuis 3 mois. Vous voulez lancer le RSA. Vous avez pris un coach. Et alors le coach vous dit mais essaye d'imprimer l'esprit du président, il faut que ça fasse image mon vieux. Comment procédez-vous aujourd'hui, parce que c'est ça qui vous a été proposé par le coach il y a près de 10 ans, le portrait du pauvre ou d'un pauvre.
Martin,
il s'agit plus de la pauvreté mais
alors,
d'un pauvre.
Alors
qui sont les pauvres hein, oui.
Alors, ce ne sont plus ceux qu'il y avait avant, hein. C'est-à-dire que la pauvreté s'est rajeunie, la pauvreté s'est liée avec le travail. Hein. Avant, la catégorisation du pauvre était relativement facile. Vous avez une grande partie de la pauvreté qui était des personnes âgées, c'était avant qu'il y ait des systèmes de retraite et des systèmes de minimum vieillesse, etc. Puis vous aviez une deuxième catégorie de la population pauvre qui était la population qui était exclue du monde du travail. Et ce qui caractérise là encore les 20 dernières années, et puis je peux être aussi concret que vous le souhaitez, hein, on peut même les appeler par leur prénom si vous le souhaitez, c'est que les catégories de pauvres, de pauvreté, se sont beaucoup diffusées et entremêlées. Donc il y a des pauvres de toute génération, il y a des pauvres de toute configuration familiale, et puis il y a ce lien entre la pauvreté et le travail qui n'existait pas auparavant. Alors... Pour moi, ce qui caractérise quand on rentre dans la pauvreté, vous avez celles et ceux pour lesquels la pauvreté va être un état transitoire. Je prends la pauvreté des jeunes. Les jeunes sont la catégorie pour laquelle le taux de pauvreté est le plus élevé. Mais d'un autre côté, la plupart d'entre eux, heureusement, ne vont pas rester pauvres pendant 20, 30 ou 40 ans. Donc, ça, c'est la... précarité qui atteint une grande partie de la population. Donc tout ça pour dire que effectivement le visage de la pauvreté est une visage de la pauvreté avec des jeunes, mais normalement pour de la pauvreté transitoire. La pauvreté chez les personnes âgées qui a spectaculairement diminué au cours des dernières décennies et puis qui remonte depuis quelques années avec l'effet conjugué du chômage et des réformes de retraite. Et puis, vous avez cette pauvreté au travail. Alors, quand je parle de ce que la pauvreté, c'est décatégorisé, etc., du coup, ça induit des relations à la pauvreté dans la population qui sont très différentes. C'est-à-dire que la menace de pauvreté semble être partout. D'où, si je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le déclin, etc.
Un sentiment de
avec des sondages d'ailleurs complètement absurdes. Quand on, je me souviens, à Emmaüs, il y avait ce sondage qui sortait tous les ans. Est-ce que vous-même, vous avez peur de vous retrouver à la rue un jour? Et il y avait genre 60% de la population qui disait oui, ce qui est par ailleurs totalement absurde puisque la population à la rue est beaucoup plus faible que ça. Mais effectivement, avec une sorte de pan entier de la population qui pense que tout peut leur tomber sur la figure. Mmh.
Hervé Brusigny.
Et du coup, que les pauvres sont une menace qui est quand même une constante, monsieur Lebrun, l'historien,
la
une constante intertemporelle. Les pauvres sont une menace et le meilleur ennemi du pauvre, c'est l'autre pauvre.
Absolument, mais ça, on va y venir.
Hervé Brusigny.
Précisément, cette pauvreté, cette sorte de menace planante de pauvreté sur tout à chacun est vécue par tout à chacun, je veux dire ressentie par tout à chacun. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant? C'est que finalement, dans le discours politique, la pauvreté en tant que telle, on ne l'entend pas si souvent que ça évoqué. Ouais. On parle du chômage, on parle de la crise économique, mais la pauvreté, qui est pourtant une sorte de scandale épouvantable pour nous tous, une sorte d'échec radical de la politique, d'une société évoluée, on n'en parle pas. C'est étonnant, non?
Vous avez mille fois raison. Moi, ça me frappait beaucoup pendant cette période où, étant au gouvernement, je me retrouvais face au Parlement. J'ai essayé de déclencher des débats sur la pauvreté, des questions d'actualité sur la pauvreté, mais c'était la croix et la bannière pour pouvoir l'obtenir. Pourquoi ? Parce qu'on, d'abord, parce qu'il y a, y compris dans la classe politique, une vision très traditionnelle que la pauvreté est hyper marginale, que ça ne touche pas l'ensemble des questions, premièrement. Deuxièmement, que la réponse à la pauvreté, c'est les leviers traditionnels de la charité, des braves associations qu'on aime bien, mais que ce n'est pas une action politique. Et troisièmement, que la pauvreté est la résultante du reste, ce qui est en partie vrai, mais du coup que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est d'augmenter la croissance, c'est de baisser le chômage, etc. Ce qui ne suffit pas. Parce que par ailleurs, et c'est là où peut-être qu'on a quelque chose, je reste désolé Jean Lebrun, un peu abstrait, c'est que la pauvreté, c'est pas simplement la question des sous, etc. C'est la désocialisation et l'exclusion et la manière dont une partie de la population est en dehors de tout cercle. C'est cette partie de la population à laquelle la société dit « Écoute, nous n'avons pas besoin de toi », à laquelle la population renvoie son inutilité à la figure. Et ça, c'est, j'allais dire, le fil rouge d'une certaine pauvreté, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de sous dedans, puis aussi des gens qui se sentent pauvres parce qu'inutiles dans la société, dans laquelle on trouvera partie des chômeurs, une partie des personnes âgées, une partie des salariés eux-mêmes, voyant cette menace de remplacement, etc., etc. Et puis,
et cette perception que vous décrivez là des politiques par rapport à la pauvreté, vous, est-ce que c'est une perception par-delà le clivage droite-gauche. Est-ce que c'est très bien partagé dans le monde politique?
Oui, alors il y a des gradients, etc. Mais c'est effectivement bien partagé. Et y compris, moi je me souviens, quand je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, il y a eu un référendum sur l'Europe. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, j'étais président d'Emmaüs à cette époque. Je me souviens, j'entends Jacques Chirac dire, je vais pas imiter sa voix, j'adore le faire, mais je vais pas le faire à la radio.
Attendez, vous nous tentez.
disant, je vais faire un référendum. Et dans les heures qui suivent, je me souviens de voir les uns et les autres se positionner sur l'Europe, sur le oui, sur le non. Et je me suis dit, mais aucun d'entre eux ne va pas, on va passer des mois à se demander si telle partie du Parti Socialiste, telle autre partie de s'appeler le RPR à l'époque, va être pour ou contre, etc. Mais on va pas s'intéresser à toute une frange de la population. Et on avait lancé, chez Emmaüs, et dans tous les endroits où on accueillait des personnes en très grande difficulté, j'avais embauché deux juristes en leur disant « Je vous demande pas si vous votez oui ou si vous votez non. Je vous demande d'aller parler des traités européens devant les gens que nous accueillons, les compagnons, les gens à la rue. » Succès, mais fabuleux. C'était absolument... Mmh. J'ai passé des soirées, mais c'était extraordinaire, où les gars venaient, ils lisaient leur... Vous rappelez, le traité était distribué partout, gratuitement. Ils avaient des tas de questions, etc. Et puis à la fin, j'ai pas résisté. J'ai fait faire un petit sondage par un grand institut de sondage en disant, est-ce que dans cette population-là, c'est le oui ou c'est le non? Tout le monde me disait que les pauvres allaient voter non, bien évidemment, puisqu'ils sont pauvres, parce que... Et en fait, c'était 50-50. Et avec une légère majorité pour le oui. Pourquoi? Parce que eux n'avaient pas la vision politique de l'Europe, ils avaient la vision de la solidarité, de la manière dont l'Europe les avait fait rentrer en Europe, etc., etc. Et donc, oui, il y a une coupure absolument spectaculaire dans la manière dont on s'adresse à une partie de la population dont on estime que leur vote est notamment et normalement prédéterminé par leur appartenance sociale, et donc on n'a pas à dialoguer avec eux.
Jean Birnbaum.
Justement, exactement sur ce sujet-là, c'est là-dessus que
je veux terminer. Transition parfaite.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'il y a des problèmes, des non-dits sur les pauvres ou le pauvre, c'est un peu difficile de généraliser, c'est pas qu'ils ne collent pas politiquement à l'image que souvent on s'en fait dans un certain imaginaire. Le pauvre n'est pas toujours le bon pauvre. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez associé pauvreté, face à la pauvreté, le progrès social, l'émancipation, etc., les progrès, les acquis que vous nommiez tout à l'heure. Et en même temps, on sait que dans toute une partie de la population pauvre, ça n'est pas le progrès qui est en vogue, c'est au contraire une forme de conservatisme. Il y a eu ce livre très important d'un Américain de gauche, qui s'appelle Thomas Frank, qui s'appelait « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» Et c'est quelqu'un qui se baladait aux États-Unis dans l'Amérique de Bush et qui était étonné de voir les déshérités et militer en permanence, là où il se baladait, pour l'abolition des protections sociales. Est-ce qu'un des grands non-dits, notamment à gauche, mais pas seulement à gauche, quand il s'agit de parler de pauvres, c'est que les pauvres, bien souvent, aujourd'hui, sont l'avant-garde non plus d'une révolution progressiste, mais d'une révolution conservatrice?
Bah, je pense que c'est plus partagé que cela. C'est en fait que, effectivement, dès lors qu'on catégorise les pauvres, on a l'impression qu'ils devraient avoir une certaine vision uniforme. Les pauvres ne sont pas uniformes, ils sont juste aussi divers que les riches, quoi, ou que l'ensemble de la population, avec, en plus, une forme de ressentiment qu'ils vont exprimer de différentes manières. Mais ce que vous disiez sur les pauvres qui peuvent être pour le démantèlement de la protection sociale, ou les enfants d'immigrés qui sont... Moi, je me souviens, il y a 3-4 ans, j'étais avec une quinzaine de jeunes dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. On préparait des jeunes qui allaient interroger le président de la République. Donc, j'allais voir quel type de questions ils avaient à poser à François Hollande pour ses vœux à la jeunesse. On avait monté tout un truc. Et puis, à un moment, il y a une petite beurette qui dit... je leur dis, est-ce que c'est bon, vous avez trouvé tous les thèmes que vous voulez évoquer? Et puis, il y en a une qui dit, ah, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas parlé de l'immigration. Et alors, l'une des personnes qui était avec moi dit, ah oui, oui, effectivement, les discriminations. Elle dit, mais non, pas du tout, pas les discriminations. Mais au contraire, la manière dont ils profitent du système, etc. Et si je peux prendre 35 secondes pour raconter un de mes moments. Un jour, j'ai été faire un cours d'économie sur la pauvreté dans un lycée à la frontière du 11e et du 20e arrondissement. Moitié bobo, moitié enfant d'immigrés. Et je commence le cours en leur disant « Pourquoi y a-t-il des pauvres ?» comme un excellent livre de Volkmann. Et donc, il y a une moitié qui dit « Parce que c'est tous des feignants. » Et il y a une autre moitié qui dit « Parce que la société est trop injuste. » Ceux qui disaient « C'est tous des feignants » étaient les enfants d'immigrés en survêtement mal habillés. Ceux qui disaient « La société est injuste » étaient les enfants de bobos. Et ils allaient se casser la gueule. Il y avait le petit Camille qui allait casser la gueule de Mamadou, en disant « Mamadou, tu es un sale raciste de dire cela, etc. » Et c'est vraiment très représentatif de choses que j'ai vues, etc. Et puis ensuite, donc le cours a commencé formidablement bien. Et puis ensuite, on a essayé d'expliquer où se passaient les choses entre les deux.
Martin Hirsch, on va prendre les questions des auditeurs, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que ça se passe au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, par Twitter, sur Twitter avec le mot-clé « Question Paul ».
Question politique sur France Inter.
Je pense que Marc est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour Alexandra Saïd.
Vous nous appelez d'où ? Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle du Nord.
Alors posez votre question si vous le voulez bien, Martin.
Et donc ma question, la devise de notre pays est liberté, égalité, fraternité. J'insiste sur égalité et fraternité. La France n'est pas un pays anglo-saxon où l'enrichissement est considéré comme une valeur. Martin Hirsch, vous venez de parler de pauvreté. Est-ce que vous ne pensez pas que le critère de jugement d'un mandat présidentiel en France devrait être la solidarité nationale ? Est-ce que les pauvres sont devenus moins pauvres et surtout sont moins nombreux ? Ce qui implique, bien sûr, car l'économie c'est un système de vases communicants, que la richesse des riches ne s'est pas amplifiée.
Merci Marc pour votre question. Donc, est-ce qu'on devrait juger un mandat en fonction d'objectifs respectés, de moins de pauvreté et moins d'inégalités, Martin Hirsch ?
Moi, je pense que ça fait partie des objectifs, bien évidemment, même si, paradoxalement, on a reproché au président sortant d'avoir joué tout son mandat sur un objectif, alors que je trouve que c'est la quintessence de la politique de dire moi je m'engage à faire reculer le chômage, pardon. C'est assez bizarre. Ouais. Le fromage est un autre sujet sur les conflits d'intérêts, sur d'autres choses. Pardon pour le lapsus cynique.
Allez-y, Martin.
Donc oui, il faut des objectifs, mais moi je mettrais autre chose. Je trouve que l'objectif, j'expliquais tout à l'heure, je disais pourquoi est-ce que la pauvreté ni n'augmentait spectaculairement, ni n'arrivait à diminuer, ce qu'on pourrait trouver pour beaucoup de sujets en France. Moi, je dirais que le premier objectif, c'est d'être capable de montrer aux Français qu'on peut bouger, se transformer. Que ça n'est pas toujours... que les problèmes qu'on traîne depuis 25 ans ne se poseront pas dans les mêmes termes dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Je vais juste l'illustrer pour être concret avec la mini-république que je gouverne, qui est celle de l'assistance publique. Parce que je me sens parfois confronté, j'ai l'impression d'avoir une mini-France à essayer de gouverner avec les mêmes difficultés, mais très représentatives. Voilà, l'assistance publique, les hôpitaux, c'est des gens où les gens sont à la fois hyper fiers d'innovations qu'ils sont capables de faire, et puis à la fois hyper malheureux de considérer que rien ne bouge, que tout se dégrade, et donc il y a cet ensemble-là de souhaiter le changement et dès qu'il change, d'en avoir peur. Donc on vit avec cela, ce qui est... Et alors, moi, j'ai considéré qu'on avait effectivement, pour essayer de conduire cette institution, à avancer sur les deux fronts en même temps, c'est-à-dire à la fois un front d'objectifs. Vous parliez des fronts d'objectifs d'inégalité. Moi, j'ai dit mon objectif à l'assistance publique, c'est que on n'ait plus besoin d'avoir un piston pour avoir une IRM dans les bons délais et que on puisse renouer avec la vraie égalité d'accès aux soins, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une suspicion de cancer, vous ayez la garantie d'avoir votre premier rendez-vous dans les 8 jours, pas pour certains en 4 jours, pas pour d'autres en 42 jours, ce qui est tout à fait insupportable. Et puis d'un autre côté, j'ai dit également, l'un des objectifs, c'est de faire en sorte que il n'y ait plus cette fatalité de toute façon, rien ne peut changer. Donc il faut aussi que les gens qui y travaillent et les patients qui y viennent aient le sentiment que ce n'est plus la même chose d'une année à l'autre. Enfin, je sais pas si. Voilà. Donc je pense que pour un président ou une présidente de la République, L'objectif, ça doit être de montrer à la France que elle a moins de rhumatisme qu'avant, ses articulations sont moins bloquées qu'elles ne le sont.
Martin Hirsch, et si on reste sur la pauvreté, est-ce que éradiquer la pauvreté, c'est une utopie? Ça s'est déjà vu quelque part? Est-ce qu'on sait comment faire?
Moi, je trouve ça trompe-couillon, l'éradication de la pauvreté.
L'extinction du paupérisme, disait Napoléon III.
Le zéro SDF.
Très bon livre, d'ailleurs, avec des très bons...
Le zéro SDF,
et puis ensuite, il y en a un qui s'est présenté à l'élection présidentielle en disant « Je suis moins ambitieux que Napoléon III. Avec moi, il y aura l'extinction du paupérisme après 22 heures.
Ferdinand Lope.
Voilà. Comment ? Voilà.
Ferdinand Lope.
Donc c'est pour ça. Moi je ne crois pas à l'éradication de la pauvreté. Je pourrais vous le démontrer théoriquement, les pauvres étant, on parle de pauvreté relative, ceux qui sont un peu moins pauvres que les autres, quoi. Donc il est vrai que tout le monde a exactement le même revenu. Et puis dès lors qu'on a une définition de la pauvreté, qui est une définition de la pauvreté avec effectivement des possibilités d'exclusion, de relégation, on peut la réduire, on peut la rendre transitoire, éviter qu'on soit ancré toute sa vie dans la pauvreté, etc. Mais considérer qu'il y aurait une planète sans pauvres, quoi. Et je pense que ceux qui le... Alors, je comprends très bien que quand on soit dans... Moi, j'avais ce grand débat quand on est à la tête d'une grande association caritative. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le dire pour motiver les troupes ou est-ce qu'on a besoin de rabattre le caquet et d'avoir une ambition plus concrète pour montrer qu'on peut avoir des résultats? Moi, je pense que le langage de vérité, qui est de dire que on peut la réduire, on peut faire sortir des gens de la pauvreté, on peut la rendre moins pénible, etc., me paraît plus motivant, plus crédible que d'attendre le grand soir de l'éradication de la pauvreté.
On a Joël au bout du fil. Joël, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous.
Bonjour Joël, bienvenue, vous nous appelez d'où ?
J'appelle de région parisienne.
Vous pouvez poser votre question à Martin Hirsch.
Oui, bonjour Monsieur Martin Hirsch, bonjour tous les collaborateurs de France Inter. Ce qu'on observe actuellement, et c'est la question que je voulais vous poser, c'est qu'on a une classe moyenne qui de plus en plus est bouleversée et a peur effectivement d'un déclassement. Alors il se trouve que c'est à chaque fois qu'il y a eu des bouleversements, des chaos en Russie, au début du siècle dernier, avant-dernier, Allemagne, etc., que c'était les classes moyennes qui se retrouvaient complètement percutées et aspirées vers la pauvreté, la précarité, que devenaient violents. Donc, je voulais avoir votre point de vue entre pauvreté que vous expliquiez, Monsieur Hirsch, et que celle qui est en train de venir.
Ah, on a perdu. On non, a perdu la. Je crois que oui, c'est la question des classes moyennes.
Phrase,
allez-y,
oui.
Martin Hirsch.
Effectivement. Depuis quelque temps, on se dit que les classes moyennes sont le marais clé du système. Il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a une manière que je récuse, qui consiste à dire les classes moyennes peuvent basculer dans le ressentiment à travers leur angoisse du déclassement. Et donc, il ne faut considérer que les classes moyennes et ne pas s'occuper des pauvres et ne pas s'occuper des riches. Et ça peut être un prétexte, du coup, pour aller casser les politiques de solidarité vis-à-vis des plus pauvres. Et je pense qu'il faut avoir une vision, si je puis dire, holistique de la société et remettre une capacité d'avoir des formes d'action qui soient progressives. Je m'explique. L'un des trucs qui casse la société sont les fameux effets de seuil qui font qu'à un euro près, on n'est plus aidé. Moi, je recevais des courriers de gens qui m'expliquaient qu'ils avaient un euro de plus que le seuil de la CMU et me disaient où est-ce que je peux rendre un euro par mois, où est-ce que je peux rendre 13 euros pour repasser sous le seuil pour ne pas avoir à acheter une complémentaire à 40 euros. Donc ces choses-là font des sortes d'énormes crevasses entre plusieurs catégories de la population qui du coup se haïssent, qui du coup se sentent relégués. Et il faut qu'on arrive à inventer ou à construire, ce qui est possible, des systèmes qui fassent qu'on ait très aidé quand on en a beaucoup besoin, puis progressivement moins, mais sans qu'il y ait ces grandes failles, ces grandes ruptures qui font naître le ressentiment, d'où il sort beaucoup de choses qui sont effectivement d'une grande violence.
Hervé Brusigny, une question.
Donc on l'a compris, nous sommes avec le président de la République, là, en ce moment, le président de la République de la PHP.
J'espère que je n'ai pas choqué.
Mais pas du tout.
C'était pas pour répéter plus haut que mon cul, hein, c'était juste pour expliquer.
Moi, je voudrais poser une question aux représentants forts du plus haut niveau, entre guillemets, hospitalier. Vous avez des problèmes à la fois d'économie, des problèmes sociaux, des problèmes y compris d'origine de vos salariés, des problèmes de démocratie interne. Quel est le plus difficile à résoudre ?
Ah, c'est qu'il faut tous les résoudre en même temps.
Non, mais
c'est pas une réponse, c'est pas pour fuir la question. C'est, je suis parti du diagnostic que justement tout se coinçait entre les questions de gouvernance, entre ces histoires de caste, entre les médecins d'un côté, ceux qu'on appelle, j'aimerais bien d'ailleurs un jour qu'on arrête de les appeler négativement, les autres s'appellent les personnels non médicaux. Vous connaissez des univers dans lesquels vous définissez négativement une grande partie du personnel. Donc entre ça, entre les tensions financières, entre l'irruption des nouvelles technologies, entre tout qui va beaucoup plus vite, les séjours durs. Et alors, entre les horaires de travail, etc. Donc moi, je suis parti de l'idée que si on attaquait les choses une par une, on n'allait jamais réussir à les faire évoluer. Et donc, il fallait prendre le risque de déstabiliser tout l'édifice en traitant tous les sujets en même temps, puis en les coiffant d'un certain nombre de choses. Là, on est en train de finir un travail sur les valeurs de l'assistance publique. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait là aussi un risque. J'ai commencé à voir des personnels de l'assistance publique qui se posaient des questions sur est-ce que je soigne tel patient à l'AME, etc., etc.
L'aide médicale d'État,
parce
celle qui s'adresse aux étrangers.
Pour eux, et moi, la vie est dure.
En situation irrégulière. Voilà.
Donc, plutôt que leur taper dessus, on va pas les passer en conseil de discipline. On va se dire comment est-ce qu'on réaffirme des valeurs auxquelles on se réfère, mais qu'on a jamais définies. Moi, ça m'a amusé parce que j'ai vu que des grosses boîtes du CAC 40 avaient leur manifeste des valeurs et que ce que j'appelle un des piliers de la République, que sont nos grands hôpitaux du service public, s'était jamais donné la peine de définir ces valeurs. Voilà, donc, la manière dont je conçois les choses, et qui effectivement peut être applicable dans d'autres domaines, c'est d'un côté, il faut redéfinir les valeurs et s'engager, quand on est dirigeant, à donner les moyens au personnel de vivre leurs valeurs et permettre au personnel de s'engager, de ne pas avoir de pratiques contraire avec ses valeurs. Et puis, il y a toute une série de choses qui vont des chantiers financiers, obtenir suffisamment d'argent, être bien productif, faire bien tourner les IRM sur toute la journée et pas les fermer à 16 heures.
Moi, j'aimerais
40 milliards de chantier, oui.
Martin Hirsch, vous avez eu plusieurs carrières. Hein. Vous avez été à la tête
d'Emmaüs.
Toujours la même. Alors, oui, vous avez été à la tête d'Emmaüs, vous avez été dans un gouvernement, aujourd'hui vous êtes à la tête des hôpitaux de Paris. Vous allez me dire pourquoi vous pensez que c'est toujours la même, et moi je voudrais vous demander où vous trouvez que vous êtes finalement le plus immédiatement efficace. C'est la question de l'engagement, hein, de ce qu'on peut faire sur le terrain.
Alors, je ne peux pas répondre à la question où est-ce que je suis immédiatement efficace, parce que sinon il y a
combien
d'auditeurs qui vont dire mais il est partout inefficace, donc je ne veux pas prêter le flanc.
Non mais vous voyez bien le sens de ma question.
Je vois très bien. Alors, premièrement, pourquoi j'ai tout de suite vous ai interrompu en disant j'ai l'impression de faire toujours la même chose. J'ai commencé par faire des études de médecine, il se trouve que ce qui m'intéresse effectivement, c'est la problématique sociale de comment vivre dans une société avec moins de souffrance, d'où les questions de pauvreté, d'où les questions de santé, qui sont deux domaines de souffrance. Et j'ai l'impression de traiter le même sujet depuis toujours, dans des positions différentes, que ce soit en écrivant des bouquins, en exerçant telle ou telle responsabilité associative ou publique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas hiérarchiser l'endroit. Quoi. J'ai toujours été confronté à cela, où on me disait, où est-ce qu'on est le plus efficace ? Est-ce que c'est au gouvernement ? Est-ce que c'est dans l'administration ? Est-ce que c'est dans une association ? Est-ce que c'est en faisant de la politique ? Est-ce que c'est en étant intellectuel ? Alors là aussi, je ne prétends pas faire tout cela, mais je pense que l'efficacité était aux interfaces de ces univers. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer les choses et les améliorer, on a besoin d'un input intellectuel, on a besoin de traits concrets, on a besoin de conception, on a besoin de l'action publique et de l'action de la société civile, on a besoin de l'engagement, et c'est pour ça que je continue à animer ce qui s'appelle l'Institut de l'engagement, qui permet à des jeunes, après leur service civique, de pouvoir essayer de s'engager pendant les 40 ans qui viennent en pouvant accéder à des études, à des boulots, tout en ayant un fil directeur qui est leur engagement dans la société. Voilà, c'est tout cela. Voilà, c'est les interfaces où ça se passe. C'est pas dans les cloisonnements d'un univers. J'ai connu l'époque, parce que je suis vieux, où l'État fixait le prix de la baguette et pensait qu'avec cela, il pouvait maîtriser l'inflation, etc. J'ai connu l'époque où l'État fixait le montant des salaires. Tout ça est terminé. C'est effectivement la manière dont on arrête d'avoir des univers associatifs, économiques, publics, qui luttent les uns pour neutraliser les pouvoirs des autres, qu'on peut espérer transformer les choses.
Une question de Jean Lebrun.
Alors, efficacité, on sait que les bons remèdes, disait le président Pinet, ce sont les remèdes qui guérissent. Je m'adresse à l'ancien directeur de la pharmacie des hôpitaux que vous étiez, naguère. Vous parlez efficacité, mais il y avait une autre recommandation. Allez, je vous sers la soupe là, en vous rappelant la correspondance que vous avez envoyée votre père au fonctionnaire lui-même au moment où vous arriviez à l'ENA. Ne pète pas plus haut que ton cul. Enfin, il parlait mieux, hein, votre père. Et il vous recommandait ne soit pas dans le pouvoir pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne pas être dans le pouvoir pur? Parce que vous avez suivi, bien sûr, les observations de votre père.
Martin Hirsch.
Eh bien, Erasme disait, on ne peut pas exercer le pouvoir si on ne l'a pas subi. Le pouvoir pur, je pense qu'on le matérialise ou on le visualise aussi bien les uns les autres. Quoi, si j'ai enfoncé des portes ouvertes, c'est le pouvoir comme une fin en soi. Qu'il s'agisse de ses attributs, de la capacité de domination qu'on a sur les uns et sur les autres, et finalement du peu de lien qu'on fait entre l'exercice de pouvoir et la réalité de la transformation qu'on peut espérer réaliser. Voilà ce que je dirais. Dans une société dans laquelle on le sait, dans laquelle on peut passer sa vie, et c'est ce que me disait mon père, fais attention de ne pas rester dans un univers qui se croit complet alors qu'il n'est que fermé. Ces univers où on ne se fréquente qu'entre personnes qui ont le même niveau d'études, le même niveau de vie, la même façon de penser, la même façon de voter, la même façon de concevoir le monde.
Et aussi la même façon de pas dire les choses. La même façon de pas dire les choses. On parlait tout à l'heure avec Patrice Duhamel de la façon dont le pouvoir isole, tous les pouvoirs isolent. On parlait notamment de l'Élysée, du président de la République. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez vous-même un président de la République d'une mini-république. Comment est-ce que vous échappez à cet isolement du pouvoir? Vous savez, Marc Bloch disait que chacun dise franchement ce qu'il a à dire, la vérité naîtra de ses sincérités convergentes. Mmh. On sait que toutes les expériences du pouvoir sont plutôt l'expérience d'une hypocrisie ou d'hypocrisie ou de complaisance convergente. Comment est-ce que concrètement, en pratique, vous faites en sorte que des gens autour de vous continuent à vous dire les choses et non pas seulement à être complaisants?
Si c'est le cas.
Le patron des hôpitaux de Paris.
Là aussi, quoi, je suis sûr que ce que je vais dire est réfutable. Je ne prétends pas y arriver, je prétends essayer. Alors, il y a des choses extrêmement simples que j'ai en tête depuis une douzaine d'années. Quand je faisais un rapport sur la pauvreté, on m'avait désigné un rapporteur qui était à la direction de la sécurité sociale du ministère des Affaires sociales en charge du bureau des affaires familiales. Et un jour, je lui dis, j'aimerais bien que la commission que je préside aille visiter deux caisses d'allocation familiale, une qui marche bien, une qui marche mal, lesquelles me conseillez-vous? Et il me répond, je ne suis jamais allé dans une caisse d'allocation familiale. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être dans un pays dans lequel les fonctionnaires qui ont une responsabilité ne sont pas au contact de leur utilisateur final ou de leur consommateur final ou de leur client final ou de leur citoyen final? Voilà. Donc moi, je m'applique cela depuis longtemps, de faire en sorte que je sois sûr, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, de passer du temps avec les gens qui ont toutes les positions hiérarchiques à la paix, avec les patients, avec des personnes en situation de difficulté, avoir d'intermédiaire, ce qui ne suffit pas. Il faut aussi avoir une vision, j'allais dire, objectivée par des notes, des chiffres, des analyses, etc. Mais faire en sorte, et je conseille et je demande à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans mon équipe, de faire de même. Quand ils me disent qu'ils sont débordés, je leur dis, soyez débordés, mais après avoir est-ce que vous êtes bien allé dans un hôpital cette semaine,
est-ce que vous êtes sûr
au
que les
moins
gens vous parlent franchement? Tout à l'heure, on disait que De Gaulle faisait confiance à son coiffeur en disant bon, alors qu'est-ce qu'il se dit vraiment, puisque tout le monde me ment autour de moi.
Pas toujours.
Comment est-ce que vous pouvez être sûr, vous, que les gens vous parlent vraiment, vous disent la vérité ou vos quatre vérités?
Ben, ils ne les disent pas les quatre, mais moi je me fais souvent engueuler par les gens avec lesquels je travaille. Ouais. J'ai jamais viré quelqu'un parce qu'il m'avait engueulé ou reproché quelque chose. Puis ensuite, c'est quand on a la diversité des opinions, la remise en cause, et puis on peut s'apercevoir assez facilement quand ce qu'on fait est à côté de la plaque. Des gens qui vous rappellent où est la plaque et pourquoi est-ce qu'on est à côté de la plaque. Il y a les forces de rappel, elles existent. Elles sont... Ah, encore faut-il ne pas les couper, ces cordes de rappel.
Hervé Bozzini.
Alors, précisément, on parle de l'action. Dans l'action, il y a cette sorte de regard autocritique, salutaire. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait au regard des représentations dont on a parlé tout à l'heure. Et je reviens sur la pauvreté. Quelles sont les préconisations du président de la République, de la PHP ou du bon docteur Hirsch? Qu'est-ce qu'il nous dit pour que, enfin, ce qu'il nous a raconté tout à l'heure sur ces deux groupes d'élèves cesse et qu'on prenne à bras le corps le sujet pauvreté en tant que tel?
Présomptueux de pouvoir répondre à tout cela. Je vais pas épuiser le sujet par ma réponse, mais je vais prendre deux, trois exemples. Tout à l'heure, Alexandra Ben Saïd m'a interrogé sur l'éradication de la pauvreté. Ça faisait écho au débat qu'on a eu ces derniers mois sur est-ce qu'un revenu universel va résoudre tous les problèmes et éradiquer. Il suffirait de fixer le revenu universel au niveau du seuil de pauvreté et plus personne serait au-dessus du seuil de pauvreté. La pauvreté s'est terminée et on peut passer au sujet suivant. Posé comme ça, zéro intérêt. En revanche, qu'est-ce qui n'a jamais été, et moi ça m'a scotché dans les débats au moment du revenu universel, qu'est-ce qui était intéressant dans ce débat? C'était pas de savoir si Madame Bettencourt allait bénéficier du revenu universel. C'est de voir que tout d'un coup le discours politique avait changé et acceptait que les revenus doivent non plus être purement les revenus du travail, mais une combinaison des revenus du travail et des revenus de la solidarité. Moi, ce qui m'a frappé dans le débat, il y a 15-20 ans, ceux qui étaient très de gauche, qu'auraient-ils défendu? L'augmentation du SMIC et des salaires. Là, c'était un tout petit peu, mais pratiquement pas. En revanche, le débat sur le revenu universel est sorti. Qu'est-ce qu'il traduisait? Il traduisait le fait que si on veut lutter contre la pauvreté au travail et qu'on ne veut pas le faire en mettant une partie de la population en dehors du système ne vivant que d'allocations, il faut effectivement permettre à une partie de la population qui a un niveau de productivité pas très élevé, de pouvoir compléter ses revenus du travail par des revenus de la solidarité. Et je pense que avoir franchi cette étape est un des éléments importants pour l'avenir. Je pense aussi que sur les jeunes, il y a toute une série de leviers qui peuvent être actionnés pour... et efficace. Ce qui me frappe, c'est que on a quand même réussi ces dernières années, et c'est passé injustement inaperçu, à réduire très sensiblement le nombre de décrocheurs scolaires. Hein, on est passé de 150 000 à moins de 100 000. Voilà, ça, pendant des années, on n'arrivait pas à sortir, à baisser. Ça, c'est des choses fondamentales pour la réduction de la pauvreté dans les prochaines années.
Et il y a donc des progrès qui sont en train de se faire aussi. Jean Lebrun, votre question.
Ben revenons sur le revenu universel. Bon, c'est une banalité de dire que il y avait des libéraux qui le défendaient, puis des gens de gauche qui le défendaient. Alors vous avez fait une expérience d'ébauche, de tentative, d'esquisse, de clivage, de dépassement du clivage droite-gauche quand vous étiez haut commissaire. Vos collaborateurs vous disaient « Mais Martin, tu vois bien que t'es soutenu par la droite, il va falloir que tu l'acceptes et vous souteniez tout le temps. Non, je veux aussi que la gauche le vote. » Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec la transformation profonde du paysage politique, de la possibilité de majorité d'idées, vous savez, comme disait un autre vieux président, oui, Carrefour, majorité d'idées. majorité de projets, si vous voulez.
Martin Hirsch.
Si j'hésite, c'est juste parce que...
Vous ne voulez pas être trop précis en ce genre de scrutin.
C'est
ce
que je suis en train de...
Vous savez quoi, Martin
Hirsch ?
Je vous en remercie.
Je suis hyper discipliné, etc.
En 40... De toute façon, il nous reste 40 secondes, allez-y. Oui. On va faire une réponse à Jean Lebrun.
Non, je pense que... je vais du coup paraphraser Edgar Faure. Edgar Faure disait avoir raison, le premier est un grand tort. Penser que son camp a toujours raison, dirais-je, est un grand tort. Ça vous répond à la question de manière politiquement...
C'est pas mal, c'est une bonne majorité de synthèse
CSA compatible. CSA compatible.
CSA compatible. Merci Martin Hirsch. Merci de nous avoir accompagnés pour ce dimanche de questions politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie mes confrères Hervé Brusigny de France Télévisions, Jean Lebrun de France Inter et Jean Birnbaum du Monde. Merci à vous tous de nous avoir... accompagné également de nous avoir posé vos questions, d'avoir respecté la consigne de silence ça vote. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et bien sûr de bonnes soirées électorales. On devrait avoir les résultats vers 20h, n'est-ce pas messieurs?
Ben oui,
c'est la loi, c'est ce qu'on attend. Des soirées spéciales sur nos antennes, sur France Inter, sur France Télévisions, j'imagine Jean sur
le Monde 24-24.
Le Monde 24-24 et puis Martin Hirsch. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci à vous.